nous, on va s'attarder à cette série que j'ai entrepris sur la première lettre de Jean, l'apôtre Jean qui a côtoyé Jésus-Christ. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, ce sont les forces d'attraction. Il y a des forces d'attraction qui, justement, des forces qui viennent générer ou opérer une attraction dans nos vies, dans nos cœurs. Et donc, c'est ce que je veux parler aujourd'hui. Je ne sais pas, on dirait que le PowerPoint n'est pas allumé. Et donc, avant qu'on aille plus loin là-dedans, j'aimerais simplement vous dire que en ce moment, ici à Gatineau, on vit un festival. C'est le Festival des Montgolfières. Et c'est un festival qui attire des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes. Et justement, les Montgolfières, c'est un moyen pour justement défier l'attraction terrestre. Et donc, ce qui arrive dans ce festival-là, qui attire, comme je vous disais, des centaines et des milliers de personnes, eh bien, il y a des membres de notre Église qui ont été là depuis jeudi comme bénévoles, soit pour aider, pour donner un coup de main, parce que cette activité-là, ça génère énormément de tourisme et ça se réalise, ça peut voir le jour grâce aux bénévoles. Et il y a des gens de notre Église qui sont bénévoles là, soit pour aider, par exemple, à l'accueil, servir de toutes sortes de façons, ou, par exemple, dans un kiosque qui est prévu pour annoncer l'Évangile. Et là, à ce moment-là, on m'a demandé de ce qu'on puisse prier pour ces gens-là parce que, au dernier rapport que j'ai reçu, le kiosque qui est réservé pour annoncer l'Évangile, il y a déjà des milliers de personnes qui ont été en contact avec le message de l'Évangile. Et on va prier également pour ceux qui sont là tout simplement pour servir, pour aider l'organisation, pour qu'ils soient une source de vie et que les gens autour d'eux puissent voir qu'être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on vient d'une autre planète, qu'on vient d'un autre monde bizarre. Et malheureusement, il y a trop de personnes, à cause de ce qu'on nourrit dans les médias, qui voient les chrétiens comme des gens bizarres. Et pourtant, on est des gens tout à fait normaux. Alors, recueillons-nous et on va aussi prier pour ce message qui va être livré aujourd'hui. Alors, Seigneur, dans un premier temps, on veut te remettre ces gens qui donnent de leur temps, qui s'investissent pour servir, pour aider, pour rendre cet événement agréable, sécuritaire, pour le bon plaisir des gens qui participent à cet événement. On veut prier également pour ceux qui se mettent à part pour témoigner de ta bonté, témoigner de ton salut, témoigner du fait que tu sauves encore aujourd'hui. Puisses-tu être avec eux, leur donner toute la sagesse, la délicatesse, afin que le message puisse sortir avec clarté, puisse convaincre, puisse sauver, Seigneur Dieu. Et que le message d'aujourd'hui, dans cette première lettre de Jean, puisse nourrir nos cœurs, nous encourager, nous fortifier, susciter en nous un désir de connaître davantage l'amour que tu as pour nous, afin que ça devienne une force d'attraction dans nos vies. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors, vous savez que les forces d'attraction, dans le passage qu'on va voir, sont reliées à deux sources d'amour. Et ce qu'on aime est vraiment attaché à notre personne. C'est ce qui nous différencie des autres. C'est ce qui nous qualifie. Ce qu'on aime, c'est intimement relié à notre personnalité. Je veux dire, tous ceux qui sont proches de moi savent qu'Éric aime la pizza. C'est inséparable. Ils savent que j'aime la pizza. Mon fils aime la poutine. Ma fille aime les sushis. Mon épouse aussi aime les sushis. Mais il y a toutes sortes de choses qu'on aime avec plus ou moins d'intensité. Et l'amour est un sujet qui est chanté, est un sujet qu'on retrouve même dans les films d'action les plus violents. C'est quelque chose qui est indissociable de la vie humaine. Dernièrement, on a vu Céline Dion sur les écrans de télé. Pourquoi? Parce qu'elle a fait différents spectacles, hein, à Québec, Montréal, Trois-Rivières. Puis une des chansons qu'elle chante encore, qui est encore populaire, c'est « The Power of Love », « La puissance de l'amour ». Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'elle dit? Un des segments de cette pièce-là, elle va dire, je le traduis d'une manière libre en français, « Je sens que je m'abandonne lorsque je suis blotti dans tes bras, que le monde extérieur est trop intense. Quand le monde extérieur est trop intense, tout se dissipe quand je suis avec toi. » L'amour de son conjoint l'apaise, lui fait du bien. Et c'est pour ça que l'amour pour quelqu'un ou pour quelque chose, ce que ça nous rapporte, ce que ça nous apporte, ça a un fait extrêmement puissant. On peut tellement donner de soi-même à cause de l'amour, parce qu'on aime. On peut même donner par amour quand ça ne nous rapporte pas. Mais autant l'amour est puissant et peut nous faire bouger, peut nous amener à commettre des actes qu'on n'aurait pas réalisés en dehors de cet élan-là, autant l'amour peut nous amener à poser des gestes qui vont avoir des conséquences désolantes ou désastreuses. Combien de gens ont été blessés par d'autres à cause de l'amour? Par exemple, si tu as eu une mère étouffante, un père autoritaire, une sœur surprotectrice, un conjoint jaloux, toutes ces personnes-là autour de toi t'ont causé des blessures, ont généré une distance, mais eux, leur motivation, c'était l'amour. L'amour, c'est comme le feu. Le feu, d'un côté, ça réchauffe, c'est nécessaire, ça produit un bien-être, mais ça peut aussi brûler, ça peut aussi détruire. Et Jean débute ce passage-là qu'on va lire dans quelques instants, en nous démontrant qu'il y a deux types d'amour qui deviennent deux forces d'attraction. Et en quoi diffèrent ces attractions-là? En trois points. Premièrement, ils sont incompatibles. Ils n'ont pas la même source. Puis en termes de longévité, j'ai essayé de le pratiquer ce mot-là, longévité, eh bien, ils sont différents. Alors, allons voir ensemble le texte. 1 Jean chapitre 2, verset 15. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et ici, l'expression « le monde », il faut faire attention parce que ça peut avoir pour certains d'entre vous une connotation. Peut-être vous nous écoutez sur la toile et pour vous, ça veut dire quelque chose de tout à fait différent que ce que l'auteur est en train de nous communiquer. Eh bien, par exemple, si on dit « tout le monde va être là », mais ça veut dire que ce sont les habitués, ce sont les gens qu'on connaît, qui ont l'habitude d'être présents, qui vont être là, à l'événement, à la rencontre. Si on dit « ah, tout le monde ne sait pas vivre », ça peut vouloir dire peut-être qu'ils sont impatients. Ça fait référence à des gens qui nous environnent, à une foule, ou ils ne sont pas du monde. Ce sont des gens qui manquent d'étiquette, manquent de savoir-vivre, etc. Et donc, l'expression « le monde » peut avoir une consonance différente dans notre esprit. Et quand on lit ça, pour la première fois, quand on l'entend puis on ne met pas dans son contexte, on se dit « attends une minute, il me semble, le monde autour de moi sont gentils, sont pas méchants, sont pas comme le décrit la Bible, c'est bien bizarre. » Mais on va se mettre dans le contexte. Le monde ici, ça fait référence au monde qui est hostile à Dieu. C'est un monde qui est organisé, qui est hostile à Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 19, un peu plus loin dans la lettre, ça nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. » Dans le grec, c'est le mot « cosmos ». C'est un système organisé qui est hostile à Dieu. Ici, ce n'est pas la gang, là, le monde, les gens qui sont sympathiques autour de nous, les gens du club de hockey, les gens qu'on rencontre chez Tim Hortons puis qu'on prend un café avec eux. C'est vraiment un système organisé qui est hostile à Dieu, qui exerce une influence continuelle chez les individus à rejeter ce que Dieu dit, à s'éloigner de Dieu et à vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est dans ce contexte-là qu'il est question du monde. Jésus lui-même a dit dans Jean 17, 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Pas dans le sens qu'ils ne savent pas vivre, mais parce que justement, les disciples de Jésus-Christ, ceux qui portent sa parole, sont détestés parce qu'ils ils ne sont pas du même royaume, ils ne sont pas animés du même esprit. Il va dire, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Dans le même évangile, au chapitre 15, verset 18, ça dit, si le monde, ou si le système organisé hostile à Dieu vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Dans notre société, tout ce qui est hostile à Dieu, à Jésus-Christ, à sa parole, c'est ça le monde. Et c'est pour ça que nous, en tant que croyants, notre norme, ce n'est pas ce que dicte notre société, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu affirme. Et c'est pour ça qu'on va voir que ces attractions-là qui peuvent influencer notre cœur, influencer nos désirs, influencer nos décisions, influencer notre mode de vie, peuvent s'opérer sous deux types d'attractions. On va voir ensemble qui sont différents en termes de compatibilité. Au verset 15, chapitre 2, verset 15, 1 Jean 2, 15. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Deux parcours, deux relations et surtout deux points de départ. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on parle de l'amour, par exemple, que j'ai pour le monde, comparativement à l'amour que le Père a pour moi. C'est deux parcours complètement différents. Un part du Père et l'autre parcours part de moi. C'est soit moi qui ai un intérêt pour le monde ou le Père qui a un amour pour moi. C'est pas moi j'aime le monde ou j'aime le Père. C'est moi, j'aime le monde ou le Père qui manifeste son amour envers moi. C'est deux points de départ. Et un peu plus loin, on va le voir plus tard quand on va être rendu dans ce chapitre-là, mais un peu plus loin, au chapitre 4, Jean va dire, si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Essaie pas d'aimer Dieu. Nourris-toi du fait qu'il t'aime. Aimer le monde, c'est facile, c'est automatique. On est attiré parce que du monde, parce qu'on est humain. On a une nature qui est comme un aimant, qui a une attraction sur ce qu'on retrouve dans le monde. Puis on va le voir, qu'est-ce qu'on retrouve dans le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelles sont la source de ces forces, de cette force qui fait en sorte qu'on veut s'éloigner de Dieu? Parce qu'il n'y a pas de place pour les deux. Jacques, au chapitre 4, verset 4, il dit, Jacques 4:4, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Celui, en d'autres mots, qui s'identifie, qui fait partie de la famille du monde hostile à Dieu, se fait l'ennemi de Dieu. Mais ici, je vais amener une nuance importante. Ça ne veut pas dire parce que ce monde qui génère des éléments hostiles à Dieu, on doit l'haïr, on doit le mépriser. Moi, j'aime le Québec. Je veux voir le Québec être transformé. Puis je suis attristé de voir ce que devient le Québec aujourd'hui dans ces années-ci. Je suis attristé de voir qu'on veut de plus en plus se dissocier de notre héritage judéo-chrétien. On est en train de mépriser les symboles que ceux qui sont venus explorer la Nouvelle-France sont venus établir. Quand Jacques Cartier plantait des croix, c'est parce qu'il y avait une foi en Jésus-Christ. Mais on veut se détacher de cet héritage-là parce qu'il y a un esprit hostile à Dieu qui nourrit la population dans ce sens-là. Et c'est à nous, les ambassadeurs de Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, de démontrer par la puissance du Saint-Esprit que Dieu est vivant et il est digne qu'on lui fasse confiance. L'amour du Père est primordial pour les enfants de Dieu. Puis malheureusement, ceux qui ne connaissent pas Dieu s'en privent et vont vivre des carences spirituelles, psychologiques, émotionnelles, relationnelles, parce que l'être humain a été créé à l'origine pour dépendre de l'amour de Dieu. Tellement que ça a même un impact sur le plan humain. Sur le site Naître et grandir, on peut lire un article qui s'intitule « L'amour de papa rend confiant ». Ça a été écrit par Isabelle Bergen de l'agence Science Presse. Et ça a été publié le 15 juin 2012. Écoutez bien ceci. « L'amour du père influencerait la confiance et le développement de la personnalité des enfants. » Il y contribuerait autant sinon plus que l'affection de la mère, soutient même une récente étude américaine. Et cette étude, c'est une compilation de 36 recherches internationales qui impliquent 10 000 participants. Ce n'est pas juste une petite recherche là, qui a été faite sur le coin d'une table, un petit sondage auprès de 300-400 personnes. 10 000 participants. C'est une recherche qui a du poids, qui a de la valeur. Et qu'est-ce que ça dit? Durant l'enfance, le rejet de la part des parents laisserait une empreinte durable et marquante sur la personnalité des enfants. Le rejet parental rendrait l'enfant plus anxieux, mais aussi plus hostile et agressif envers les autres. Il occasionnerait une véritable douleur qui perdurerait durant des années. Dans le cerveau, elle se manifesterait dans la même zone que la douleur physique. La souffrance occasionnée par ce manque d'amour persisterait à l'âge adulte, entraînant une grande difficulté à bâtir des relations de confiance avec les partenaires intimes. Écoutez bien ce qui suit, c'est intéressant. Cette récente étude s'inscrit aussi dans la lignée de très nombreuses recherches se penchant sur l'impact du manque d'affection venant plus souvent du père. Et c'est là le point que je veux vous amener. Cela confirmerait ce que les chercheurs soupçonnaient déjà. Le rejet paternel semble avoir de plus grandes conséquences sur la personnalité de l'enfant que celui de la mère. Selon ces chercheurs, l'amour maternel ne compenserait pas non plus le manque d'amour paternel. Les enfants attribueraient en effet plus de prestige ou de pouvoir au père, constatent les auteurs de l'étude. Le père aurait donc une plus grande influence sur leur vie. Et ça confirme exactement ce que la Bible dit dans Proverbe 17, verset 6, quand il dit que les pères sont la gloire de leurs enfants. Le chercheur Ronald Runner recommande donc aux pères de s'investir dans les soins de leurs enfants. Selon lui, les manifestations d'amour paternel s'avèrent importantes pour le bon développement des enfants et pour les rendre plus confiants face à la vie. Imaginez que si, d'une manière terrestre, d'une manière humaine, l'implication du père joue un rôle déterminant dans le développement puis dans l'avenir de leurs enfants. À plus forte raison, le Père céleste peut avoir un impact et c'est pour ça qu'il s'identifie comme le Père. C'est parce qu'il veut justement nous amener à découvrir qu'en lui, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir de l'assurance, être confiant, avancer dans son plan. Et ça, dans une atmosphère puis dans une relation où est-ce que je me sens libre, je me sens en confiance, je me sens aimé et je me développe sainement. En ce qui concerne le Père céleste, il s'implique dans notre développement. Parce qu'on voit dans 1 Jean 4, 7 et 8 que c'est son caractère, c'est ce qui le caractérise, c'est sa nature. Jean va dire, Dieu est amour. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il est. Il est animé d'un amour sacrificiel. Et ça s'est manifesté en lien avec son Fils, quand on le voit dans Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. Toute la Trinité est impliquée dans cette relation d'amour que Dieu veut nous manifester au travers le Père. Et quand je ne me laisse pas nourrir de cet amour-là, eh bien, mon attraction naturelle se tourne vers ce monde qui est hostile à Dieu et ce qu'il y a dans ce monde. Ce que ça produit, c'est que ça peut attrister le Saint-Esprit qui est en moi, si je suis né de nouveau, si je suis un enfant de Dieu, ou même jusqu'à éteindre le feu de l'Esprit, que mes motivations spirituelles peuvent s'en aller en diminuant. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que si je n'ai plus ou j'ai perdu confiance en l'amour de Dieu ou j'ai perdu de vue l'amour de Dieu, eh bien, certainement, il y a une source d'inspiration qui te nourrit contre lui. Et ça, c'est important d'en trouver la source. Parce que savez-vous quoi? Le cœur humain a horreur du vide. Il va se laisser attirer par une source ou par une autre. Et ça, même des disciples de Jésus-Christ peuvent en être affectés. Quand Paul a écrit à son disciple Timothée, dans 1 Timothée 4, 9 et 10, 1 Timothée 4, 9 et 10, il dit, « Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. » Il est parti pour Thessalonique. Démas, c'était un membre de l'équipe de l'apôtre Paul. Un modèle par excellence parmi les disciples de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas avoir humainement meilleur coach, meilleur mentor que l'apôtre Paul. Mais même si je reçois le meilleur équipement possible, si je me prive de l'amour de Dieu, il va y avoir des carences dans mon cœur, c'est clair. Et ce qui est intéressant dans le texte, ce n'est pas n'importe quel type d'amour, c'est un amour ici, de la façon qui est conjuguée, qui est continuel, mais qui est également exclusif. Vincent va dire, l'amour de Dieu n'est pas en lui comme étant le principe moteur de sa vie. Démas n'avait pas comme principe moteur de sa vie l'amour de Dieu. Hodge va dire, on ne peut pas aimer le monde et le Père en même temps. Mais savez-vous, c'est quoi la bonne nouvelle? Dans 1 Jean 4, 4, dans cette même lettre un peu plus loin, ça dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, la force d'attraction que produit ce monde peut avoir moins de puissance, moins de force, moins d'influence que l'amour du Père si on fait simplement la laisser pénétrer notre cœur, si on va vers lui pour la recevoir. Et c'est pour ça que elles sont différentes, ces deux types d'attraction en termes de source. 2.16, il dit, en effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, ou second, ou Darby va traduire par l'orgueil de la vie, vient non du Père, mais du monde. Et je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 3, parce que, savez-vous quoi? Ces trois éléments-là sont fondamentaux La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, parce que ce qui a été, c'est ce qui a été à l'origine de la chute, à l'origine de la séparation entre l'humanité et Dieu, du divorce entre l'homme et son origine. C'est ce qui a été à la source de cette séparation-là, de ce rejet de la volonté de Dieu, des ordres de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 6. Quand le serpent l'a tenté, la femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme vit qu'il était porteur de fruits bons à manger, convoitise la chair, agréable à regarder, convoitise des yeux et précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus a été tenté dans ces trois sphères-là. Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses, sans dévier du plan de Dieu, sans commettre de péché. Et c'est pour ça qu'il peut compatir avec nous lorsqu'on est en tentation, lorsqu'on est en lutte. Cette convoitise, dans le grec, ça parle d'une envie, d'un désir passionné. La convoitise de la chair, ce sont les appétits corporels dépravés, la dimension dépravée qui gouverne la volonté, la raison et les émotions. C'est le monde du faire. C'est ça qui va nous amener à manger comme un cochon, boire comme un cochon, vivre une sexualité en dehors du mariage. Et l'envie ou la convoitise des yeux, c'est une nature avide de l'homme, c'est l'avoir. Si j'ai pas une grosse maison, je filerai pas bien, je serai pas heureux. Si j'ai pas ma BMW, je serai pas heureux. Puis c'est pas mal d'avoir une BMW, une grosse maison. C'est qu'est-ce qui te motive à l'avoir? De quelle manière, c'est quoi ta relation avec ces choses-là? C'est tout dans l'esprit. Pour un, c'est une chose excellente. Pour une autre, c'est une occasion de chute, de se détourner du plan de Dieu. Parce qu'avec ces choses-là, je vais devenir quelqu'un, je vais bien paraître, je vais atteindre un certain niveau, je vais être en paix en dedans de moi. Pour une autre, avoir une grosse maison, c'est tout simplement, j'ai les moyens, puis ça va me permettre d'accueillir plus de gens, puis j'ai une grosse famille où je veux pouvoir inviter des gens. Puis c'est, comme je vous dis, ce n'est pas la chose qui est le problème. C'est toujours notre attitude de cœur face à la chose. Qu'est-ce que ça nourrit dans notre cœur? Qu'est-ce que ça produit? Puis le seul moyen d'être guéri de ça, c'est de connaître l'amour de Dieu pour ma vie, pour ta vie. L'orgueil de la vie, c'est l'être, c'est le prestige, c'est l'éclat, c'est la supériorité, c'est le pouvoir. Théeur va dire une assurance vide et insolente qui se confie dans son propre pouvoir et ses propres ressources et qui honteusement méprise et viole les lois divines ainsi que les droits humains établis par Dieu et non par les hommes. Une assurance vide et insolente, elle vient définitivement d'une autre source. Qui se confie dans son propre pouvoir. L'orgueil de la vie, c'est ça, dans ses propres ressources, qui méprise les lois divines et qui viole les droits humains qui ne sont pas établis par Dieu. La convoitise charnelle qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'ont pas pour source le Père. Elles ont pour source un monde hostile à Dieu. Hodge va dire également que le monde est un système de valeurs et de but d'où Dieu est exclu. Et le dernier point, c'est qu'il diffère en termes de longévité. Longévité. Je l'ai encore manqué, celle-là. 2:17, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe, c'est comme s'il passe en longeant le mur, il passe inaperçu. En d'autres mots, ce monde et l'attrait qu'on peut avoir pour ce monde va disparaître. Ce qu'on a aimé hier du monde va disparaître. Les modes passent. Mais par contre, faire la volonté de Dieu a des impacts éternels. Puis savez-vous quoi? Oublions pas ce que Dominic King nous a dit au mois de février, quand on a vécu ensemble en tant qu'Église ce 21 jours qu'on appelait Libération 21. Et il nous a dit que nos décisions et nos actions d'aujourd'hui sont en vue d'une réalité future. Et il ne faut pas perdre cette perspective-là. On est ici sur Terre pour une raison précise. et on vit pour cette vie qui est dans l'éternité. Notre motivation terrestre doit être motivée par l'amour de Dieu, par le plan de Dieu, parce que son plan est conçu pour nos vies en fonction de qui nous sommes. Il nous connaît intimement, il nous connaît personnellement. Il sait jusqu'où on est capable d'endurer une épreuve. Il a prévu des provisions pour qu'on puisse justement se fortifier au travers avant que l'épreuve arrive, pendant que l'épreuve arrive, et ensuite pour pouvoir témoigner de sa fidélité après l'épreuve. Mais si notre focus est uniquement terrestre, puis c'est important de s'occuper des réalités terrestres, Dieu ne nous demande pas d'être irresponsables, mais est-ce que notre focus est uniquement là-dessus parce que l'attraction de ce monde est plus forte que l'amour du Père qu'il y a pour nous? Et le seul moyen d'en être guéri, c'est en allant vers lui, parce qu'on n'aura pas en nous-mêmes un amour pour Dieu. Le seul temps qu'on va développer un amour pour Dieu, c'est quand on va se nourrir et connaître intimement l'amour qu'il a pour nous. En conclusion, j'aimerais terminer par quelques réflexions. En résumé, ces attractions envers l'amour du Père et l'amour du monde diffèrent en termes de compatibilité de source et de longévité. Je l'ai eu. Deux options. Soit que j'aime le monde, ou soit je me laisse aimer par le Père. Le focus est soit sur moi, ou soit sur lui. C'est le monde qui est l'objet de mon amour, de mon engagement, ou je suis porteur de l'engagement d'amour que le Père a pour moi. Mais savez-vous quoi? Il y a une question qu'on peut se poser. Comment je peux être aimé de Dieu si je ne suis pas aimable? Je ne fais pas ce qui lui plaît. Mais il faut se rappeler continuellement que justement, Dieu est amour. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il est amour, il va nous laisser faire tout ce qu'on veut. Mais quand il va nous reprendre, quand il va nous corriger, quand il va nous dire « Non, tu ne l'as pas l'affaire, Éric », il va être continuellement motivé par l'amour. Et combien de fois, quand une épreuve nous arrive, quand une tuile nous tombe sur la tête, quand une situation imprévue nous dépasse, quand on a l'impression qu'on a perdu le contrôle, c'est plus nous qui menons, parce que les événements nous dépassent, l'être humain, son premier réflexe, c'est « Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu permets ça? » Et c'est là qu'on peut remettre en question l'amour du Père envers nous. Et ça devient une discipline de dire, attends une minute, je dois maintenant évaluer, voir les choses dans une autre perspective. Et la réponse ne te viendra peut-être pas à l'instant que tu vas lui demander. C'est pour ça que le fruit de l'esprit produit justement une patience, une endurance. Et on l'a vu dans les dernières semaines lorsque je vous ai partagé la parabole de l'enfant prodigue, que le père a aimé le fils en courant vers lui, le fils plus jeune, puis a aimé le fils aîné en sortant puis allant vers lui. Les deux étaient éloignés du cœur du père. Celui qui était au loin puis celui qui était à proximité. En d'autres mots, il n'y a personne qui peut être exclu de l'amour de Dieu. Que tu te penses à la hauteur spirituellement, dis ben moi ça va bien, spirituellement j'ai pas de problème. Mais prive-toi pas de l'amour de Dieu. Jude va dire maintiens-toi au contraire dans l'amour de Dieu. Parce que l'attraction à laquelle le Saint-Esprit veut nous amener, c'est à la croix où le cœur du Père est révélé. Savez-vous quoi? Si Céline Dion pouvait s'abandonner librement dans les bras de son amoureux, qu'est-ce qui t'empêche à toi à t'abandonner dans les bras de celui qui t'a aimé et qui est mort pour toi à la croix? Tu vas dire, oui, mais je suis déjà sauvé, j'ai déjà accepté que Jésus-Christ est mort à la croix. Oui, mais ce n'est pas parce que tu es sauvé maintenant que tu n'as plus besoin de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as découvert, le Saint-Esprit t'a ouvert les yeux et t'a fait voir que tu étais coupable devant Dieu, que tu étais digne d'être châtié, tu étais digne du châtiment éternel, tu étais digne de ne plus être dans sa présence, de souffrir, d'être tourmenté éternellement, Puis le Saint-Esprit te dit, mais tu n'as pas à craindre, puisque maintenant je veux te sauver. Je veux prendre ta place, je veux payer pour ta condamnation. Mais la parole de Dieu nous enseigne de continuellement revenir à ce point de départ qui nous a sauvés. De revenir et nous rappeler que c'est là qu'il nous a aimés. Et si j'étais pécheur, qui m'a aimé quand j'étais pécheur, dans le pire de ma condition, dans le moment où est-ce que j'étais le plus hostile à Dieu, il m'a aimé. Mais aujourd'hui, à plus forte raison que je suis son enfant, puis que je vis des difficultés, je trébuche, je manque, je pêche, je passe à côté, eh bien, son amour n'est pas restreint, est encore là, est encore disponible. Et en me rappelant la croix, ça me rappelle qu'il est mort pour moi. Pas juste au moment où est-ce qu'il m'a sauvé, mais encore aujourd'hui. L'effet de la croix a encore un effet dans ma vie aujourd'hui. Pas pour être sauvé une deuxième, une troisième fois, une centième fois, une 150e fois, mais c'est un rappel de son amour pour moi, la grandeur de son amour illimité pour moi. Et c'est pourquoi que lorsqu'on s'en nourrit, si l'amour du Père est en moi, mon attrait pour le monde, mon intérêt pour ce monde va diminuer, va disparaître. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse se retrouver auprès de lui et dire, hey, « Seigneur, j'en ai besoin. » Alors, c'est pour ça que je vous invite à ce qu'on se recueille présentement. Recueillons-nous. Pendant ce temps-là, j'invite les musiciens à s'approcher. Seigneur, quand tu nous parles de ton amour, tu l'associes à ce rôle de père. Malheureusement, dans notre société, on connaît une société où est-ce que beaucoup de pères sont absents, beaucoup de pères ont des blocages relationnels, émotionnels, beaucoup de pères ont de la difficulté à démontrer leur affection d'une manière verbale ou d'une manière physique, d'une manière saine. Mais malgré, Seigneur Dieu, ces dysfonctions, toi, tu n'es pas comme ça. Et on veut connaître ce Père qui nous aime, ce Père qui est concerné par nous, ce Père qui a un plan pour chacune de nos vies, afin que nos intérêts soient continuellement animés par une relation qui se développe, qui grandit, qui est basée sur ton amour. Père, si quelqu'un n'a jamais connu cet amour divin, mais au contraire a une liste de reproches à te faire, eh bien, puisses-tu convaincre cette personne-là aujourd'hui que l'image qu'elle a de toi, c'est une image faussée, c'est une image qui est nourrie par ce monde qui est hostile à toi? Et pour ceux qui sont déjà sauvés, qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont reconnu qu'ils sont coupables devant toi, mais qui ont accepté que Jésus-Christ a pris leur place, et puis puisses-tu les réconforter aujourd'hui, leur donner de l'assurance, leur donner une paix, leur témoigner cette semaine d'une manière personnelle combien ton amour, tu t'es engagé à les aimer. C'est ce que le texte grec nous dit. Puisses-tu leur montrer, nous le montrer à chacun de nous, j'en ai besoin, Seigneur. Mes enfants ont besoin que tu leur démontres que tu les aimes. Et mes enfants ont besoin que tu te serves de moi pour leur démontrer que tu les aimes. Et mon épouse également. Merci pour ton amour pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.